Merci, Madame Baillat. Oui, je vous vois. Merci en tout cas, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, nous vous remercions pour votre présentation et nous vous laissons la parole.
Merci beaucoup. Je me permets de partager l'écran.
Oui.
Voici. Alors, oh, pardon. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour de me permettre de donner une présentation sur le thème du chaperon rouge. Je m'appelle Anna Baya et le semestre dernier, ici au Japon, j'ai suivi le cours de Madame Le Floch sur Perrault. Et notre devoir en tant que projet du semestre était de comparer un des contes de Cher Perrault avec une adaptation ou une recréation japonaise du même conte. Et j'ai trouvé un manga, surtout une série de mangas des années 90, avec le titre Akazukin Chacha, qu'on peut traduire comme Chacha au chaperon rouge. Et ce manga n'est pas une adaptation ou réécriture du conte de fées, mais une histoire indépendante qui a adapté simplement des motifs principaux du conte de Perrault, notamment le chaperon rouge et le loup. En comparant les deux, j'ai découvert que les motifs du chaperon rouge qui étaient transportés dans la culture japonaise est en effet un narratif précis sur la nature des petites filles. Et la première chose que j'avais compris, c'est que le chaperon rouge est un personnage mignon. Et elle est mignonne parce qu'elle est naïve. Donc la naïveté, je vois si loin de dire que la naïveté est son essence. Et la deuxième chose que j'avais compris, c'est que cette naïveté est une qualité complexe avec une ambiguïté assez sombre. Parce que dans la naïveté évoquée chez Perrault, on y trouve une double contrainte. D'un côté, elle est une qualité désirable, la qualité qui rend des petites filles adorées, aimables. Mais d'un autre côté, elle est la cause de la menace et de la violence à laquelle le chaperon rouge subit en tant que proie sexuelle du prédateur, du loup. Dans le manga, par contre, le kawaii, dont on a déjà entendu pas mal de choses, est juxtaposé par la violence d'une manière très particulière. Et je vais essayer de comprendre à quel degré cette juxtaposition correspond au concept de la naïveté chez Perrault. Donc, en gros, dans cette présentation, je voudrais présenter mon analyse de la naïveté chez Perrault et comment elle ressemble au concept japonais de kawaii. Et il faut d'une remarque sur le kawaii. Aujourd'hui, on traduit kawaii par mignon. Mais littéralement, ça veut dire aimable, pas dans le sens contemporain, poli ou gentil, mais surtout dans le sens originaire, qui est digne d'être aimé ou facile à adorer. Donc, l'organisation, d'abord, dans une première partie, je vous présente la naïveté chez Perrault et le kawaii dans le manga, Akazukin Chacha. Dans une deuxième partie, je vais montrer comment cette naïveté fait partie de la culture du viol. Et finalement, on va étudier si ou au quel degré Akazukin Chacha est une série qui était une série pour les enfants, reprendre la structure prédateur-proie et dans quel endroit cette histoire résiste à cette interprétation. Et ensuite, comment le kawaii est mis en scène avec la violence. Alors, d'abord, la naïveté chez Perrault. Perrault, dans le XVIIe siècle, la naïveté avait une signification d'une vertu, surtout une vertu féminine. Vous en avez probablement déjà parlé dans la séance Griselidis. Je cite alors du dictionnaire Furetière pour rappeler la définition de l'époque. La situation suivante est un extrait de l'article. Donc, être naïf, ça veut dire vrai, sincère, rassemblant. Il se dit d'une peinture, d'un discours qui représente bien la chose telle qu'elle est. Ça signifie aussi ingénu, simple, qui dit les choses sans en prévoir les conséquences. Les paysans qui ne sont jamais venus dans les villes sont fort naïfs. Ils font des réponses naïves, vérité dite simplement et sans artifice. Mais aussi, il y a une phrase exemplaire que je trouve assez pertinente. On a interrogé cette jeune fille. Elle a répondu avec une grande naïveté. On voit bien qu'elle est vraie. Elle dit vrai. Donc, chez Perrault, je trouve qu'il a créé une naïveté qui dépasse un peu la crédulité et qui prend la forme d'un caractère entier. Selon mon analyse, on y trouve notamment trois traits caractéristiques principaux qui constituent la naïveté. J'évoque trois moments dans l'histoire pour ces traits. D'abord, l'introduction du chaperon rouge en tant que fille paysanne aimable. Il l'introduit en disant qu'une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir, sa mère en était folle et sa grand-mère plus folle encore. Donc, une fille de village, du village, qui est adorée par toutes les personnes qui l'entourent. Ensuite, on a la première rencontre avec le loup où on commence à comprendre qu'elle est assez crédule. Il y a beaucoup de crédulité et de l'ignorance du monde dans ce caractère. On lit la pauvre enfant qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter à écouter un loup. Dans toute innocence, sans rien douter, le chaperon rouge explique au loup en détail le chemin à la maison de sa grand-mère et avec la pauvre enfant qui ne savait pas. Perrault fait la paix à l'empathie du lecteur ou de la lectrice et il enlève toute faute pour cette bêtise de donner au loup toutes les informations sur la grand-mère. Donc ici, cette bêtise ici fait preuve de sa jeunesse et de son innocence, du fait qu'elle ne connaît pas le monde. Et ensuite, après cette conversation avec le loup sur le chaperon rouge et sur le chemin à la grand-mère. Et ici, Perrault décrit la manière de se rapporter au monde et la curiosité. Et moi, j'y vois aussi une certaine maladresse. Donc, on lit la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, donc pas très efficace, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons et à faire des bouquets de petites fleurs qu'elle rencontrait. Donc, ici, la curiosité et le désir de s'amuser avec son environnement est très évident. Par contre, j'ai mentionné aussi une maladresse. Et à mon avis, la curiosité et l'engagement avec ce qui entoure un personnage fait normalement épreuve d'une sorte d'intelligence. Mais ici, la curiosité n'est pas un désir de savoir ou de comprendre, mais surtout une curiosité dans le sens que le chaperon rouge est très facilement distrait. Donc, ces trois traits caractéristiques, la fille paysanne aimable, la crédulité et l'ignorance du monde, et une manière de se rapporter au monde, de s'engager avec son environnement. On les trouve aussi dans le manga que je vous présente tout de suite. Alors, voici, vous voyez les deux premiers tomes de la série Akazuki Chacha par la mangaka. Mangaka, c'est le nom pour les artistes manga de Aya Hanami. Des années 90, et comme j'ai déjà dit, Akazuki Chacha, ça veut dire Chacha ou chaperon rouge, et on la voit ici. Et je pense que le lien avec le chaperon rouge est très clair. On a le panier, on a les fleurs, on a le chaperon rouge. Par contre, malgré le nom, ce manga n'est pas une adaptation ou une réécriture du conte fée, mais une histoire indépendante d'une apprentie magicienne qui porte toujours un chaperon rouge et qui a comme meilleur ami un loup-garou qui s'appelle Lia. Ici, on lui voit aussi, sur le tome, on lui voit aussi dans sa forme animale. Et à part de Ria, on a aussi l'autre apprentie magicienne, Shiine, qui est le disciple de Dorossi, une grande magicienne. Et lui et Ria, ils sont tous les deux amoureux de Chacha et en compétition permanente. Et un autre personnage majeur est le maître de Chacha, Seravi. Et en fait, Seravi, c'est exactement comme vous l'entendez. Ça vient de la phrase « c'est la vie », la phrase française. Et c'était le titre d'une chanson populaire au Japon dans les années 80. Au début, en fait, Ayahana voulait créer un manga autour du personnage du loup, surtout un manga pour les petits garçons que les filles, mais elle était demandée par Dibon, la maison d'édition ou surtout revue de manga, d'en faire un vrai shoujo manga. Shoujo manga, c'est un genre propre au manga, et ça veut dire manga pour les petites filles, pour les jeunes filles. Et pour ce genre-là, il faut absolument d'une protagoniste féminine et kawaii, mignon. Alors, du kawaii, on en a déjà pas mal entendu. C'était déjà dit que c'est une idéale esthétique. En fait, ça dépasse un peu l'esthétique. Il y a aussi un certain idéal moral. C'est assez complexe, donc il ne faut pas le généraliser, mais dans cette présentation ici, je me concentre sur une partie du kawaii dans la fiction, notamment le manga, ce qui est différent, par exemple, dans le kawaii dans la mode ou dans les autres genres de films. Le mot, en fait, a une très longue étymologie. Ça vient du mot kawayushi, qui veut dire la timidité ou l'embarras. Et c'est le terme le plus vieux, en fait, de l'époque Heian, qu'on identifiait comme racine de kawaii. De ce terme était dérivée l'abréviation kawayushi dans le XIIe siècle, qui signifie une combinaison de charme et de pitié, adversité et rudesse. Et finalement, dans l'époque Meiji, c'est-à-dire dans le XIXe siècle, cette forme était transformée en kawaii, comme on le connaît aujourd'hui. Par contre, à l'époque Meiji, cela signifiait surtout quelque chose de petit, innocent et enfantin, et quelque chose de girly, c'est-à-dire pour les filles. Et vous voyez ici une citation qui décrit que dans la littérature japonaise, kawaii contenait toujours, parmi d'autres propriétés, une vulnérabilité qui évoque le souhait de protéger la personnage ou le personnage kawaii. Donc, voici, vous voyez une scène dans laquelle on devient témoigne de le fait kawaii. Shiine, l'apprenti magicien, le disciple de Dorossi, il voit dans cette boule de cristal Cha-Cha pour la première fois. Et sa réaction est très simple. Il babute un peu et dit kawaii. Et dans le reste de l'histoire de cette scène-là, il n'oublie plus à sa maîtresse, mais il aide Cha-Cha et il est devenu fou d'elle d'un seul instant. Donc ça, c'est le fait kawaii. Alors, on comprend alors que la naïveté correspond au kawaii. Si on analyse Cha-Cha, c'est l'un des trois traits caractéristiques que je viens d'évoquer. D'abord, comme le chaperon rouge, Cha-Cha aussi est une fille du village. Ça, c'est la première page de la série qui introduit Cha-Cha. Et on voit ici la maison dans le mochi-mochi, le mochi-mochi-yama où elle habite dans la forêt, dans la campagne. Ici, l'illustration, ce n'est pas un style d'architecture japonais, ça rappelle surtout les petites cabanes dans les livres de contes fées européens. Cha-Cha, comme le chaperon rouge, est adorée par les gens autour d'elle. C'est la vie, l'élève comme sa propre fille. Iria et Shiine sont amoureux d'elle. Hors de l'histoire, Cha-Cha était écrite pour être adorée. J'ai déjà évoqué ce shoujo manga, ce genre-là. Et pour la démarche d'un manga en tant que produit, d'un marché particulier, créer un personnage kawaii signifie par la même occasion créer un personnage adorable, aimé et populaire, ce qui est nécessaire pour le succès commercial d'un shoujo manga. On remarque d'abord que le concept de kawaii et le caractère du chaperon rouge ont en commun d'être aimé. Et finalement, Cha-Cha ignorant des dangers du monde, et des règles de la société. Dans le cinquième volume, Cha-Cha est endormie ici, entre les deux garçons. Lia et Shiline. Et ce personnage-là, cette jeune fille, s'appelle Marine. C'est une sirène qui est aussi tombée amoureuse du loup-garou, Lia. Et à la recherche de Chacha, non, elle est à la recherche de Lia. Et elle trouve Chacha endormie entre les deux garçons. Et en contraste à Chacha, Marine est très consciente de soi et de ce que ça veut dire d'être une fille. Et elle s'approche, elle s'adresse à Chacha dormante et elle a dit: je n'arrive pas à le croire, tu es une fille, tu dors entre les garçons, tu sais que tu es une fille, non? Donc, Chacha reste endormante jusqu'à Marine lui réveille assez cruelle, de manière assez cruelle. Pour moi, c'est une clé pour la compréhension de la naïveté ou le kawaii dans ce manga-là, parce que Chacha ne se rend pas compte de son effet sur les autres. Elle ne sait pas d'interpréter le comportement de Lia ou Shiine, qui sont tous les deux amoureux d'elle. Elle ignore son rôle social en tant que fille. Donc, elle semble incapable d'avoir la méfiance vers autrui. Et finalement, on a aussi un peu la curiosité et cette maladresse. Dans le manga, c'est surtout que Chacha essaye toujours son meilleur. Il y a une phrase en japonais qui veut dire, surtout, c'est une verbe qui veut dire gambaru. Ça veut dire essayer son meilleur. Et gambatte, c'est vraiment un mot qu'on utilise tout le temps. Et Chacha, elle essaie toujours son meilleur. Par contre, un des running gags de cette série, c'est que elle confond toujours les mots pour les formules magiques. Et au lieu d'un, par exemple ici, au lieu d'une fleur, Seravi lui demande de transformer cette petite plante dans une fleur jolie. Elle laisse pousser un arbre qui rompt la toiture de la cabane. Donc, elle est assez maladroite. Et je pense, oui, on a vu qu'il y a quand même, ce n'est pas seulement le chaperon rouge, l'image, mais aussi des traits de caractéristiques qui sont assez similaires entre le kawaii de Chacha et la naïveté du chaperon rouge. Donc, ensuite, j'ai dit au début que cette naïveté ou la relation entre le loup et le chaperon rouge en tant que proie et prédateur, ça correspond à ce qu'on dit, ce qu'on appelle la culture du viol. Et ça, c'est un peu, ça peut être un terme qui évoque des débats. C'est un concept de la sociologie. Et ici, on évoque une petite partie. Et ce que je fais, c'est une simplification. Donc, si jamais il y a des questions ou des parties qui ne sont pas claires, on va en parler après. Pour l'instant, je me concentre sur les mythes du viol et je cite d'un livre de Noémie Rinard qui s'appelle En finir avec la culture du viol et elle aussi, elle cite des autres chercheurs. D'abord, le terme culture du viol, ça désigne une culture dans le sens de l'ensemble des valeurs, des modes de vie et de traditions d'une société dans laquelle le viol et les autres violences sexuelles sont à la fois prégnants et tolérés. Ce qui englobe une culture du viol sont notamment les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances réifiées par les arts, les lettres, le discours public, mais aussi la loi, etc. Et dans la culture du viol, certains mythes et stéréotypes sur le viol et la sexualité en général qui permettent de nier et de justifier l'agression sexuelle masculine contre les femmes. Ils sont parfois toujours persistantes dans notre culture aujourd'hui. Et j'évoque trois mythes qui semblent correspondants à ce qu'on voit dans le chaperon rouge. D'abord, c'est le mythe. Il y a le mythe de la vraie victime. Donc, une victime crédible, celle dont l'honnêteté et la morale ne laissent pas place au doute. C'est-à-dire une victime qui s'habillait trop sexy ou qui a joué peut-être avec l'attention d'un agresseur devient moins innocente et perd sa crédibilité en tant que victime. Donc, c'est-à-dire, il y a un certain, il y a des degrés auxquels on peut être victime, une vraie victime, ou sur ces degrés, on peut être innocent en tant que victime. Ensuite, il y a le mythe des besoins sexuels incontrôlables de l'homme et de la domination masculine comme essence de la sexualité. Donc, c'est-à-dire les désirs deviennent des besoins selon certaines chercheurs, par exemple de la sexualité. C'est-à-dire si les désirs deviennent des besoins, ils sont un peu moins, ils sont dans la nature d'une personne. Une personne, ils sont un peu hors de la responsabilité, cette personne. Et ensuite, le mythe du rôle de la gardienne du temple, c'est-à-dire la responsabilité de se défendre suffisamment, de se protéger face à une agression sexuelle ou à un viol et chez les filles et pas chez les agresseurs. Donc, on voit ici que, sur, notamment le mythe de la vraie victime et le mythe de la gardienne du temple, pose un paradoxe pour toutes les victimes, car pour être une bonne gardienne, il faut connaître les hommes et la sexualité, il faut l'expérience du savoir. Pour être une vraie victime, si on a subi la violence, il faut d'une surprise totale et d'une innocence qui garantit l'honnêteté et la morale des victimes. D'un côté, les filles sont responsables de leur propre protection, de maintenir leur innocence. De l'autre côté, pour être moralement irréprochable, il faut de la naïveté, de l'innocence et de l'ignorance totale pour être considérée une vraie victime. Les victimes, d'une façon ou l'autre, sont blâmées ou rendues coupables pour leur état de victime. Pour l'homme, par contre, s'il a une sexualité intacte, il a par l'instant des besoins incontrôlables et les souhaits de dominer et même faire de la cruauté et de la violence sont quasiment dans sa nature. Et pour cette raison, hors de sa responsabilité. Donc ça, c'est des mythes et comme j'ai dit, c'est une simplification. S'il y a des questions, je peux évoquer des citations après. Donc, où est-ce qu'on voit ces mythes chez Perrault, dans le conte de Perrault? Bon, d'abord, je trouve que la moralité de Perrault, à la fin du conte, laisse aucun doute que la violence par le loup, son souhait de manger la fille est une métaphore pour le viol et la violence sexuelle. On dit, je dis le loup, car tous les loups ne sont pas de la même sorte, suivent les jeunes demoiselles jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles. Donc, le loup est identifié ici par Perrault lui-même comme l'homme dangereux. Et je voudrais évoquer un autre texte du même siècle dans lequel on trouve aussi le loup pour le prédateur sexuel, le terme loup. Il s'agit d'un texte de Marguerite de Navarre, Navarron, de son collection de Deptameron, dans lequel une jeune fille réussit à échapper deux agresseurs sexuels par une ruse. Elle laisse les deux dans une petite île et s'en va pour alarmer son mari et les gens de son village. Et le moment où elle est en sécurité, en lit, et en entrant au village, va appeler son mari et ceux de la justice pour venir prendre ces deux loups enragés dont, par la grâce de Dieu, elle avait échappé de leur don. Donc ici, ça fait un peu l'épreuve, ça fait une épreuve intertextuelle de la métaphore du loup en tant que prédateur sexuel. Donc ici, on a le loup, il acte selon ses instincts. De dominer et dévorer sa proie. Je pense que le mythe devient facilement visible. Aussi, le désir de dévorer le chaperon rouge, c'est-à-dire le désir sexuel, est ici devenu un besoin, enfin, peut-être le besoin le plus naturel, c'est le besoin de manger. Il a faim, il est carnivore et il n'a pas un chien, donc il n'est pas domesticable. Par contre, la naïveté du chaperon rouge lui rend une vraie victime. Elle est complètement innocente et elle ignore tout du loup. Et la manière dans laquelle la naïveté est mise en scène dans l'histoire, elle devient le moyen pour contraster la violence. Et je voudrais argumenter ici que ce n'est pas seulement le contraste, même l'idée que la naïveté défie un peu la violence. La scène clé pour moi, c'est dans le conte, c'est le dialogue entre le loup et le chaperon rouge dans lequel le loup l'a fait mettre au lit. Donc, on lit que Elle fut bien étonnée de voir comment sa grand-mère était faite en sans déshabiller. Elle lui dit, ma grand-mère, que vous avez des grands bras, ma grand-mère, que vous avez des grandes jambes, etc. Et malgré son étonnement, elle n'y importe aucune réflexion ni doute. Donc, les questions répétitives de Chaperon Rouge servent à faire naître l'attention. Ils rendent le contraste entre le loup qui sait tout, qui est conscient de sa supériorité, et le chaperon rouge qui ne remarque pas le danger dans lequel elle se trouve, encore plus évident. Donc, autant évident que l'impuissance, pas seulement au niveau de physique, mais aussi au niveau de la conscience, parce que le loup et le lecteur et la lectrice savent tout, le chaperon rouge ne sait rien. Avec ces questions, le chaperon rouge examine le loup peu à peu, et s'approche de lui d'une façon curieuse et étonnée. Et en suivant le dialogue, le lecteur obtient peu à peu l'impression que le chaperon rouge défie le danger, à part contraster la naïveté, la violence et son pendant contraire. Donc ici, on a des contradictions, gentillesse, cruauté et calcul, crédulité, qui font ressortir la violence comme une réaction naturelle à la naïveté. Alors, où est-ce qu'on trouve alors ces mêmes structures que je viens d'évoquer dans le manga? Le kawaii en tant que proie, d'abord, il faut comprendre d'abord que toutes les scènes de menace ont une bonne fin. Il y a pas mal de scènes de menace parce qu'il y a beaucoup de créatures magiques et dangereuses dans ce manga. Mais il se termine toujours avec les personnages menacés de devenir amis avec l'agresseur. Et une scène clé que j'ai trouvée, c'est une scène où Chacha et Marine se trouvent en face d'un vampire qui hypnotise les deux. Vous voyez dans l'image toute droite. Et il est en train de, il amène à son château fort. Et il est en train de contempler avec quel défi il commencera à prendre du sang. Et il décide pour Chacha parce qu'il la trouve plus kawaii, plus mignonne que Marine. Et le moment où on le voit ici, il est auprès des deux filles endormies et il chante un peu pour soi-même. Là, il dit elle est plus kawaii, donc je vais commencer avec elle. Et dans ce moment-là où il dit ça, il dit sa contemplation à haute voix, Marine se réveille ici et elle frappe le vampire en disant « T'as dit quoi? T'as dit que je ne suis pas aussi mignonne que Chacha ?» On le voit ici. Donc, malgré le danger et la menace dans lesquelles les deux se retrouvent, Marine se sent insultée par le fait que l'agresseur lui trouve moins désirable que Chacha. Donc, on voit déjà, on l'a vu déjà dans la scène avant, et ici aussi, que Marine, qui est aussi un peu plus grande que Chacha, est plus consciente de soi-même et des règles de la société dans ce monde de manga, comme dans la scène que je vais évoquer tout à l'heure. Et cette scène continue, les deux se trouvent toujours dans la captivité du vampire, et pour gagner un peu de temps avant qu'ils prennent leur sang, les deux font semblant d'être impressionnés par lui, d'être même tombeux amoureuses de lui. C'est-à-dire, elles jouent avec son ego. Ici, on voit les deux filles avoir, ils se sont discutés un peu, qu'est-ce qu'il faut faire, il faut se protéger. Et là, elles ont des yeux très, très grands. Et le Chacha dit Kakoi, Kyuchan. Kyuchan, c'est le nom du vampire. Et Kakoi, ça veut dire trop stylé, trop beau. Et Marine dit Deto shitai ne, c'est-à-dire je veux sortir avec toi. Et c'est une ruse qui marche, en fait, parce que le vampire, il prend sérieux. Et au lieu de manger les deux, il montre son monde, son château fort. Donc ici, le kawaii devient un moyen, le comportement kawaii devient un moyen de se protéger. Et cette ruse, cette idée de cette ruse vient de Marine, pas Chacha. Et c'est assez frappant que les deux utilisent leur côté pour faire sortir l'empathie du vampire, c'est-à-dire de l'agresseur. Et ici, je voudrais encore une fois citer du texte de Marguerite de Navarre, de l'Heptaméron, que je viens d'évoquer avant, parce qu'on retrouve cette ruse dans le même texte, cette ruse de faire semblant d'obéir à son agresseur, c'est-à-dire ici, la jeune fille prit les deux agresseurs de coopérer avec elle pour éviter plus de violence. On a la citation ici. Même si dans la scène, dans Akazu Kinshasa, elle reste plus ou moins innocente, je trouve que les liens entre les deux sont assez clairs. Donc ensuite, ça c'est ici on a analysé la structure proie et prédateur. Et maintenant il faut se tourner à la violence. D'abord, il y a une différence entre violence et violence sexuelle. On n'a aucune violence sexuelle. On a, je pense, la scène que je viens de, on a un peu des relations amoureuses très infantiles. Et la scène que je viens de vous montrer avec le vampire, c'est la scène la plus qui correspond le plus à cette structure prédateur-proie. Par contre, on a pas mal de la violence. Et ce que je trouve quand même intéressant, d'abord, c'est une violence qui appartient aussi un peu à humour burlesque. Vous connaissez peut-être ce terme de Louis de Funès, ça fait partie du cinéma. Buster Keaton et Charlie Chaplin étaient les premiers, mais aussi dans le dessin. Chez Walt Disney, on l'a pas mal. Et c'est une violence humoristique qui reste sans conséquence, et c'est son propre genre. Donc, ça fait partie du monde manga, mais j'en suis pas experte. Donc, il faudrait une propre analyse. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est souvent Ria et Shiine, les deux garçons amoureux de Cha-Cha, qui subissent à cette violence parce que Cha-Cha a fait une bêtise, elle était maladroite, donc elle fait souffrir les deux garçons parce qu'elle est kawaii. On le voit par exemple ici dans cette scène assez claire, elle est maladroite avec son balai et c'est Ria qui souffre. Et ensuite, une dernière scène où la violence devient quand même un peu plus sombre. On a une scène, voici, vous voyez la salle des filles, et vous avez une personne qui regarde à travers la fenêtre et porte une masque très effrayante. Et donc, il essaie de s'introduire au bâtiment. Et les filles, elles sont choquées, elles ont peur. Et si jamais vous pensez que vous connaissez cette masque, c'est peut-être parce que vous l'avez déjà vue. C'est exactement inspiré par une série de films d'horreur des années 80 qui était aussi très populaire au Japon. Et je trouve, avec la violence qui reste sans conséquence et qui est surtout un moyen drôle, très frappant que ici il y a quand même un autre niveau de sérieuxité et de une dimension qui vient d'un film d'horreur dans des mangas pour les petites filles. C'est quand même une chose qui reste à analyser. Donc, je voudrais aussi évoquer pour la fin Bruno Bettelheim, parce que lui aussi dit sur la naïveté du chaperon rouge, c'est séduisante que soit la naïveté, il est dangereux de rester naïf toute sa vie. Donc, même chez Bettelheim, on comprend que la naïveté séduisante, c'est quand même une vertu, quelque chose qu'on trouve assez adorable chez des petites filles. Par contre, ça attire le danger. Oui. Merci beaucoup de m'avoir.
Merci à vous. Est-ce que... Oui, Marc. Stop. Alors, je vais remettre le bengle pour qu'on te voit parce que... Voilà.
Oui, bonjour et merci pour votre intervention. Moi, j'ai une remarque depuis ce matin avec la culture japonaise qui me paraît peut-être à questionner. C'est cette non-relation à l'évolution dans l'âge. Là, dans cette version-là, par exemple, chez nous, la grand-mère est extrêmement importante. Et là, elle disparaît complètement. Elle n'existe pas. La mère est quasi inexistante. Donc déjà, la relation de génération qui semble être... Et cette, ce quasi-enfermement dans l'âge enfantin. Voilà. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est généralisé dans tous les mangas ou est-ce qu'on retrouve cette relation à la...
En fait, peut-être j'aurais dû l'expliquer plus clairement parce que j'ai essayé. Il y a beaucoup de personnages et j'ai essayé de le condenser le plus possible. Mais en fait, il y a pas mal une idée de famille. C'est la vie, le maître de Cha-Cha et Dorothy. Ils font pas mal. Un remplacement pour le père et la mère de Cha-Cha et de Shiné. Et aussi la famille de Ria, du loup-garou, elle joue un rôle. Donc il y a des générations et il y a des familles, mais ça reste picture perfect, très pittoresque. C'est surtout des figures ou des personnages d'autorité et les enfants. Oui. Est-ce que ça répond à la question suffisamment?
Oui, je pense que... C'est-à-dire qu'en même temps, si vous voulez, la perception que j'en ai de très loin, parce que je ne suis pas un grand fan de manga et un grand connaisseur du coup, mais quelque part, j'ai l'impression que l'objectif même de ces récits n'a plus rien à voir avec les objectifs des récits qu'on a dans nos traditions, en tous les cas européennes, qui est d'être dans cette acceptation, en fin de compte, d'un parcours de vie qui est de l'ordre d'une nature humaine. On est plus dans des espaces que je ressens en tant que tel comme